Bonjour Hugo, bonjour à tous. La solidarité à la source, une réforme qui simplifie les démarches des 30 000 allocataires de Sévrien bénéficiaires de la prime d'activité et du RSA. Sous l'impulsion de Georges Petrou, chef d'orchestre, pianiste et metteur en scène de renommée internationale, le festival Ervo Allegro a vu le jour et un nouveau rendez-vous est donné ce jeudi. L'association Cap Sans Peur du Handicap, qui vise à faire la promotion du handisport, prépare une nouvelle aventure à cheval entre les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime, où se déroulera la majorité des étapes à compter du 6 septembre. Et puis, dans l'actualité sportive, un coup de projecteur dans ce journal sur la reprise du Tour Foot 119 avant le retour du championnat de Régional 1. Quant à la météo, elle restera bien ensoleillée cet après-midi. C'est à 13h30 tout à l'heure qu'est jugé par le tribunal de Niort celui qui est surnommé le rôdeur des écoles. Âgé de 38 ans, ce chauffeur-livreur est poursuivi pour corruption de mineurs après avoir été repéré à proximité de plusieurs établissements scolaires, notamment à Choré, Vouillé ou encore la crèche. Installé en Gâtine, il lui est par ailleurs reproché l'enregistrement et la détention d'images pédopornographiques. Après 4 mois de mise en œuvre, la réforme nationale de la solidarité à la source porte ses fruits. En Deux-Sèvres, 30 000 allocataires bénéficiaires de la prime d'activité du RSA sont concernés et bénéficient du pré-remplissage de leur déclaration trimestrielle de ressources. La réforme a été lancée le 1er mars dernier et elle répond à 3 objectifs, comme nous l'a indiqué Fatma Drissi, la directrice de la CAF des Deux-Sèvres, la Caisse d'allocation familiale.
Il y avait 3 objectifs dans cette réforme. Faciliter les démarches, c'est-à-dire vraiment avoir un gain de temps. Un deuxième objectif qui était vraiment de limiter le risque d'erreur, parce qu'il y avait des erreurs importantes dans les déclarations. Et une erreur sur une déclaration de ressources à la CAF, ça peut faire varier le droit et le montant de la prestation. Et derrière, faire que la CAF vous demande et réclame les trop perçus. Donc c'était un élément d'insécurisation important pour les allocataires et du coup ça on l'évite. Et puis le troisième effet, c'est effectivement les gens qui ne demandaient pas les prestations, dont on connaissait pas les revenus. Et là, avec la déclaration pré-remplie, ça va nous permettre de faire des démarches, d'aller vers ces allocataires pour leur permettre, ceux qui ne bénéficient pas de leurs droits, d'en bénéficier. C'est une réforme qui a été intégrée à notre système informatique, donc les choses sont automatisées, il y a des éléments de vérification chez nous, donc c'est pas forcément plus de travail pour nous, c'est surtout plus de sécurité et un gain de temps pour les allocataires.
Les allocataires n'ont plus qu'à vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, et dans 95% des cas, les chiffres sont validés. Dans les 5% restants, il s'agit la plupart du temps d'interrogations qui sont levées par les agents de la CAF. Les retours sont donc positif et la réforme de la solidarité à la source va se poursuivre dans les prochaines années.
Les perspectives, c'est d'aller vers d'autres revenus bien intégrés dans cette déclaration pré-remplie, puisqu'aujourd'hui, il y a essentiellement les revenus professionnels et les revenus des prestations. Mais demain, l'enjeu, c'est d'avoir les pensions alimentaires, parce que c'est un sujet de ressources important pour nos allocataires, pour toutes les familles d'ailleurs, et puis les revenus des travailleurs indépendants qui n'y sont pas aujourd'hui. Et le deuxième enjeu, ça va être, au-delà d'avoir ces nouvelles ressources en plus, de lancer des campagnes d'accès aux droits pour justement les gens qui aujourd'hui n'ont pas recours aux prestations auxquelles ils pourraient avoir droit, pour pouvoir justement faire en sorte qu'ils en bénéficient.
Et ça, c'est à quel horizon à peu près ?
Sur la question de la pension alimentaire des travailleurs indépendants, on est sur 2026-2027. Et sur l'accès aux droits, le lancement des campagnes, les contacts avec les allocataires et les familles, on est déjà en train de le démarrer.
Les propos de Fatma Drissi, la directrice de la Caisse d'allocation familiale des Deux-Sèvres, interrogée par Fabien Gazot. Le chef virtuose Georges Petrou crée un festival classique à Ervo. Pianiste de talent d'origine grecque, chef d'orchestre classique et metteur en scène d'opéra à la stature internationale, Georges Petrou vient de créer un festival classique à Ervo où il a atterri à la recherche d'un havre de paix entre 2 voyages sur la planète. Avec sa compagne Sylvie Lemerer, le couple a fait l'acquisition du château des Sénéchaux il y a 2 ans. La création du festival Ervo Allegro tient à la fois du hasard et de la gratitude, comme elle l'explique au micro-colline de notre correspondant au Arcé, Dominique Héroux.
Nous recherchions un endroit pour nous ressourcer et poser nos valises. Nous avons cherché pendant de longs mois dans divers pays et nous sommes finalement tombés tout à fait par hasard sur cette annonce. Pour pouvoir faire la visite, nous sommes venus d'Allemagne du Nord en une journée. On a eu un coup de cœur et on est reparti en disant c'est là, c'est chez nous. C'est la maison qui nous a choisis. Georges, c'est un homme de cœur. Et nous sommes vraiment très reconnaissants à la ville d'Hervaux, aux habitants d'Hervaux, de nous avoir accueillis avec autant de gentillesse et de cœur. Et on a eu envie de redonner ce qu'on a reçu, beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Et la seule manière qu'on sait le faire, c'est avec l'art, avec la musique.
Hervaux Allegro prend donc place aux côtés du festival Hervaudais de musique classique. Les murs ont des oreilles, installés depuis plus de 20 ans, sans esprit de concurrence, mais pour étoffer l'offre auprès des mélomanes de la région. Le premier des 5 rendez-vous, le dimanche 20 juillet dernier, a été un succès avec près de 150 spectateurs à qui il a été offert gratuitement par Georges Petrou. Sylvie Lemaire détaille une partie du programme sur le thème Alexandre Le Sévère de Heindel, dirigé par Georges Petrou, justement.
Le prochain rendez-vous, c'est le 31 juillet avec la soprano de l'Opéra de Paris, Maria Barenberg, accompagnée au piano par William Shaw. Elle va jouer des morceaux de Debussy, Rossini, Mahler, Brahms, Strauss. Ensuite, le 5 août, c'est le ténor espagnol Juan Sancho, un des ténors les plus reconnus en musique baroque, et qui va jouer des chansons espagnoles du XVIIe siècle, accompagné au théorbe et à la guitare baroque. Ça va être un moment très intimiste. Et le 11 août, c'est Stravaganza Veneziana. Donc c'est un ensemble baroque qui est créé spécialement pour le festival par Georges et qui va jouer des concertos de Vivaldi et Albinoni. Et puis le 14 août, nous finirons avec la soprano Mircini Margariti qui va jouer des cantates et sonates pour violoncelle de Handel et Vivaldi, toujours sur instruments d'époque.
De jolis moments pour un tarif limité à 12 euros le fauteuil. Les concerts ont lieu à 20h30 dans les dépendances du château des Sénéchaux, sauf celui du 11 août qui se tiendra à l'abbatiale Saint-Pierre d'Hervaux. Le programme et les réservations sont disponibles sur le site Hervaux Allegro. Reportage signé Dominique Hérault. Une nouvelle animation est proposée demain mardi par l'Office de tourisme du Bocage Bressuret. Rendez-vous au Pin pour découvrir le patrimoine historique et naturel d'un lieu, accompagné de la guide de l'Office de tourisme et d'un animateur nature et en partenariat avec la Buissonnante. Le rendez-vous est donné à 18h, place Jeanne d'Arc. Réservation obligatoire auprès de l'Office de tourisme du Bocage Bressuret. Le tarif est de 7 euros par participant. Cap Sans peur du handicap prépare une nouvelle aventure sportive et humaine. Les participants vont mettre le cap d'Île en Île, une appellation en jeu de mots. Il s'agit de partir de Bressuire le 6 septembre à 13h de Bocapol pour rejoindre les îles de Ré, d'Aix et d'Oléron en courant à vélo, en nageant ou en canoë. La joëlette sera également utilisée par l'équipage qui est composé de pompiers et de personnes en situation de handicap. Le retour est prévu le 12 septembre à Bressuire, à l'hôtel de ville cette fois-ci. La semaine sera très sportive. Le programme avec Frédéric Ouvrard, co-président de Cap Sans Peur du Handicap, qui est devenu une association à part entière.
On va partir de Bressuire le 6 septembre pour d'avoir faire à peu près 400 km pour ce qu'on va faire quelques petits détours. Pour rejoindre donc l'île de Ré, on va ensuite enchaîner toujours en vélo à faire des relais donc pour faire le tour de l'île de Ré. On va rejoindre La Rochelle également en faisant du canoë et également donc un peu de course à pied pour rejoindre nos véhicules. Donc ça va être donc les deux premiers jours. Et après donc les jours suivants, donc on va enchaîner avec l'île d'Aix qu'on va devoir forcément rejoindre en natation canoë, donc il y a une belle distance à faire pour en faire ensuite le tour de l'île d'Aix, bon, qui n'est pas très grande, en joëlette sur laquelle donc on va embarquer des personnes à mobilité réduite. Le retour à nouveau en natation canoë. Et après donc les deux jours suivants, on va se consacrer donc à la conquête de l'île d'Oléron, où là du coup on va en faire le tour en deux jours et uniquement en courant avec également joëlette, faire découvrir l'île donc à plusieurs personnes en situation de handicap. Donc deux qui sont au centre déjeuner de Châtillon-sur-Touée, et après deux qui sont également de l'IME de Thouars, et également deux qui sont du centre de Saint-Trojan, donc sur l'île d'Oléron.
Un défi sportif, mais aussi logistique. Le centre sportif de Boyerville sera le camp de base. Les participants seront, à n'en point douter, très bien reçus, puisque le défi permet aussi de lever des fonds, et 25 000 euros ont été versés au centre pour l'acquisition d'un bateau goélette, spécialement conçu pour recevoir des personnes handicapées. Eddy Boissineau, autre coprésident.
Une goélette qui permettra d'accueillir jusqu'à 11 personnes en situation de handicap. Donc c'est un bateau un petit peu particulier qui est adapté, qui pourra voguer et puis faire le tour notamment du Fort Boyard. Donc une goélette qui est déjà active et opérationnelle. Donc pour ceux qui veulent l'avoir, la goélette est basée au centre de voile d'Oléron.
Vous avez vraiment récolté pas mal de fonds hein, sur ce défi. Ça vous permet de subventionner, en tout cas d'aider d'autres projets ou d'autres financements d'équipements.
Ouais, effectivement. Donc cette année, le partenariat a encore mieux fonctionné qu'il y a deux ans. Donc la Golette était le gros morceau en termes de finances. Mais on a pu également donc offrir un séjour à la famille de Naël, donc une petite fille qui est atteinte de leucodystrophie. Donc justement, on a pu leur offrir une semaine au centre sportif de Boyerville. On va également pouvoir, en collaboration avec le comité handisport, donc financer un fauteuil roulant pour la section handi du club de basket de Niort. Et également donc financer un handbike pour le bac de Bressuire, voilà, qui veut développer également une filière handisport. Et enfin, dernière chose, on est en lien avec les IME et la DPI pour leur aider à financer des murs interactifs qui serviront donc pour des déficients intellectuels.
Vous pouvez toujours participer à la cagnotte via le site Hello Asso, mis en place par Cap Sans Peur du Handicap. Retenez la date de ce défi, départ le 6 septembre à 13h de Bocapoule. Touar Foot 79 prépare également sa saison de Régional 1. Les footballeurs touarciens ont repris le chemin de l'entraînement mardi dernier, toujours sous la houlette de Pierre Naudet, l'entraîneur de l'équipe première et manager général du club, qui mise plus que jamais sur la jeunesse avec la création de 4 équipes seniors au lieu d'une équipe U19.
C'est probablement d'ailleurs le plus jeune effectif depuis que j'entraîne en senior que je vais avoir. Une vingtaine de jeunes joueurs issus des catégories 18-U19, 9 nouveaux joueurs. Donc presque la moitié de l'effectif n'était pas en senior l'année dernière. Et donc il faut que ces garçons, effectivement, d'abord apprennent à se connaître, à travailler ensemble, comprennent la logique du projet de jeu qui va être le nôtre, le mode de fonctionnement. Et donc j'allais dire que la préparation, elle est un peu coupée en 3. Il y a les 15 premiers jours, on va surtout chercher à se préparer, à se réentraîner, c'est-à-dire retrouver le goût de l'effort, les éléments de prépa. On part en stage à Sablé-sur-Sarthe tout début août, 2 et 3 août, où à partir du stage, on va commencer à entrer dans le projet de jeu. Et là, sur un cycle de 15 jours après le stage, on va enchaîner les matchs amicaux qui vont nous permettre d'ancrer pour les joueurs les éléments du projet de jeu. Et ensuite, on passera sur une phase pré-compétitive pour préparer la reprise des championnats. On va essayer d'échelonner ça pour que chacun puisse arriver à avoir les mêmes contenus, les mêmes éléments pour être prêt quand ça démarrera.
Pierre Naudet sait donc parfaitement où il veut aller avec les seniors du Touar Foot 79, avec la jeunesse, mais aussi quelques recrues et notamment l'Espagnol Mouloud Saïd Tchèque qui a fait les beaux jours de l'attaque Noyau-Braise ces dernières saisons.
C'est un garçon qui depuis plusieurs saisons enchaîne les saisons en marquant des buts. Ce qui était pour nous important, c'est que depuis plusieurs saisons, le club avec sa R1, mais c'est vrai avec la R2 et la D1, était plutôt dans les bons classements des défenses, mais un peu moins dans les classements des attaques. Et c'était vrai pour nos 3 équipes. Il fallait qu'on amène quelque chose pour essayer d'améliorer ce secteur-là, où on était pour moi déficitaire. Non pas que nos joueurs n'étaient pas de bons joueurs, mais il nous manquait de la densité, de la quantité, pour pouvoir à la fois mettre une situation concurrentielle et avoir des profils différents. Et l'arrivée de Moulou, de Nelem Bakebo, par exemple, mais d'un certain nombre d'autres, nous amène cela.
Pierre Naudet, manager général du Touar Foot 79, qui prépare donc ses équipes seniors pour la reprise, avec notamment la R1 qui jouera un premier match amical le vendredi 1er août à Thouars face à Pouzauges, dont les joueurs ont repris le chemin des terrains mardi dernier également, sous la direction de Valentin Charbonnier.